Bonjour Cole.
Bonsoir Harrison.
Bonsoir, excuse-moi. Tu vas bien?
Très bien, ouais, et toi?
Ça va, ça va. On est de retour avec un autre épisode de Washington Parano. Merci à tout le monde qui a écouté le premier épisode. Une des remarques peut-être de la première épisode, c'est on ne s'est pas assez présenté, peut-être, ou ce qu'on voulait faire, la démarche qu'on avait en faisant ce podcast. Donc peut-être on peut, avant de replonger dans l'actualité chaude et le tumulte américain.
Ouais, moi, je couvre, comme toi, je couvre plutôt la vie politique française en anglais pour des médias anglophones. Il m'arrive aussi plutôt de commenter, parfois on me demande de faire des articles aussi sur la politique américaine pour des Français. Et donc souvent je fais ça dans des contextes, je suis souvent sur des plateaux ou à la radio, à la télé, où souvent je fais des articles. Et je me sens parfois un peu limité dans ce que je peux dire, parce que le journalisme, c'est comme ça. Bon, c'est une question de format court. C'est aussi une question d'audience, en fait. Qui est en train de m'écouter, de me regarder? J'ai pas envie de faire peur aux gens. Moi, je pensais qu'un podcast, pour moi, c'est une façon d'être un peu plus libre dans mon expression, de m'exprimer un peu plus librement, de dire ce que j'ai envie de dire et voilà. Donc pour moi, il y a un peu ce truc-là de liberté de parole.
Décomplexé.
On a le temps de creuser plus les sujets. Et puis aussi, là, je vais bientôt commencer un projet de livre sur la politique américaine en français. Donc pour moi, c'est aussi une façon de réfléchir à voix haute, littéralement, sur un peu ce projet et sur la politique américaine d'aujourd'hui. Donc pour moi, je dirais que c'est ces deux raisons-là. S'il fallait être bref, parce qu'on s'est dit qu'on allait être beaucoup plus bref et court cette fois-ci, parce qu'on a tendance à parler. Et donc là, voilà. C'est pour ça que j'ai envie de faire j'ai envie de faire ce podcast.
Tu veux dire que peut-être tu veux sortir du placard en tant que puritain américain, peut-être?
J'ai jamais
on
été.
On entend très souvent l'importation d'une forme de discours, de diverses formes de discours des États-Unis. Et bah, en fait, on voulait peut-être créer une plateforme pour ces types de discours, pour aller directement aux jeunes militants de gauche français,
pas que de gauche, mais
les jeunes militants français assoiffés d'une forme de puritanisme intellectuel et de rigueur morale que malheureusement on ne fait que aux États-Unis et dans le climat intellectuel, moral, politique américain.
Je dirais pas que j'ai envie d'être un puritain américain. Je suis un peu perdu, Harrison. Je dois être tout à fait honnête.
Moi aussi, ça fait plusieurs années que j'écris sur la France, sur l'Europe. Ça fait plaisir, mais peut-être il y a une certaine envie de se renouer au moins intellectuellement, politiquement, avec les États-Unis. Il y a eu des moments où je faisais des trucs sur les États-Unis, ça m'a fait... J'ai beaucoup aimé. Mais juste à titre personnel, je voulais avoir peut-être une plateforme pour faire du travail journalistique sur le pays d'où je viens. Bon, il y a évidemment de la bonne couverture en France, mais c'est aussi très important de constater à quel point les États-Unis, politiquement, au moins de la réaction de la droite en France, c'est en quelque sorte un repoussoir, en quelque sorte aussi. Donc je pense qu'on veut aussi un peu creuser la façon dont une vision ou une analyse très creuse et vide des États-Unis devient par la suite un des arguments à droite. Bon, ça sera une des sous-textes peut-être de ce qu'on veut explorer et creuser par ce podcast. Mais peut-être juste pour le format de ce qu'on veut faire. La première épisode, c'était un sorte de retour mi-actualité, mi-historique des 10 dernières années un peu à gauche aux États-Unis à travers AOC, The Squad, entre guillemets, et Bernie Sanders, et bon, l'échec ou les réussites de cette nouvelle gauche. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus actualité. On veut parler du printemps un peu chaud aux États-Unis, ce mouvement dans les universités qui a tant occupé l'attention ici en France et aux États-Unis évidemment. Mais il y aura d'autres épisodes qui seront peut-être plus historiques, théoriques. On veut aussi creuser peut-être les classiques de la pensée critique américaine, des épisodes peut-être sur les événements ou les épisodes dans l'histoire américaine, un peu oubliés ou refoulés au moins en France. Donc ce sera un peu un podcast, juste on veut se donner carte blanche sur la politique américaine, l'histoire américaine, la société américaine, la culture politique américaine aussi.
C'est ça. Et aujourd'hui, ce sera plus, plus actu. Moi, je vais aussi dire un mot rapide sur le titre du podcast.
D'accord.
Donc, parce que les Français connaissent Las Vegas par un autre livre de Hunter S. Thompson. Il se trouve que Hunter S. Thompson, l'écrivain, le journaliste américain, n'a pas que fait des livres sur la drogue, même si je dirais que Las Vegas par un autre n'est pas un livre qui est sur la drogue, malgré ce que pensent beaucoup de personnes. C'est un journaliste et il a couvert la campagne présidentielle de 1972 dans un livre en anglais qui s'appelle Fear and Loathing on the Campaign Trail, 72. Las Vegas par un autre, en anglais, c'est Fear and Loathing in Las Vegas. Donc, quelques années plus tard, il écrit Fear and Loathing on the Campaign Trail. Donc, pour moi, en français, la traduction, enfin, un peu de ça, la suite logique, c'est Washington par un autre. Donc, c'est une façon de faire hommage un peu à Hunter S. Thompson, sans trop insister non plus sur Hunter S. Thompson, parce que bon, c'est pas un dieu non plus. Mais c'est pour beaucoup de références, pour beaucoup de journalistes, un peu un point de référence important. En tout cas, ça l'était pour moi. Et je vous conseille de lire, pour ceux qui lisent l'anglais, de lire ce livre qu'il a fait sur la campagne de 1972, qui est absolument
hilarant. J'imagine celui-là n'est pas traduit en français.
Je pense pas. Ouais. Mais c'est un livre super.
Ok.
Il lance des rumeurs sur la campagne, il dit qu'il y a un candidat qui prend de la drogue, bref.
C'était 72, donc on était Nixon et McGovern,
oui. Je crois. Oui, il lance une rumeur sur Ed Muskie, qui est un peu le Joe Biden de la campagne, centriste, sans charisme. Et il dit que Muskie a un problème avec la drogue, qu'il commence à voir ça dans la presse. Et c'est Hunter Thompson lui-même qui a créé la rumeur, qui a ensuite fait du reportage là-dessus. Et c'est un peu un classique du reportage politique américain. Mais juste, voilà, et je clôt la parenthèse. On peut commencer l'épisode.
Oui, allons-y. Pour vous qui écoutez aujourd'hui, vous avez suivi l'actualité américaine, en partie liée aux mobilisations, au mouvement social autour du génocide, la guerre en cours au Gaza. Et vous aurez vu que depuis la dernière dizaine de jours en avril, qu'il y a une déferlement de mobilisation, d'occupation, de militantisme qui a notamment lieu dans les universités et les campus américains. Ça a fait sortir plein de références à 1968, quand il y a eu, comme en Europe, comme en France, des énormes manifestations aux États-Unis liées notamment à la guerre de Vietnam. Et cette fois-ci, bon, bref, un peu avec d'autres parallèles historiques qui... On voit énormément par ces temps-ci. Tout a commencé en quelque sorte avec l'occupation une mise en place d'un encampement. Comment dirait-on ça? Des tentes, les étudiants ont occupé une pelouse sur le campus de Columbia autour du 17-18 avril, qui a été une première fois vidée par les policiers qui ont été invités par la direction, qui ont été commandés d'intervenir sur le campus de Columbia par la direction de l'université, qui a mené à une première tranche d'arrestation, une centaine, je crois, d'arrestations cette première soirée. Ce qui a ensuite donné lieu à un déferlement de mobilisation dans d'autres universités. Et peut-être, bon, on voit toujours des mobilisations dans les universités américaines, mais peut-être le climax du cycle actuel, nous savons tous, a été l'occupation d'un bâtiment de Columbia le soir, je crois, c'est la dernière soirée d'avril au 1er mai, où les étudiants, je pense jusqu'à 80, une centaine d'étudiants, ont occupé Hamilton Hall, qui est peut-être le bâtiment principal des étudiants au niveau de licence de l'université, qui a été vite fait délogé par les flics, qui, encore une fois, ont été sommés d'intervenir par la direction de l'université.
On voulait parler de ces mobilisations qui ont commencé, comme tu le disais, à Columbia, mais aussi parler de leur impact éventuel sur les élections. Donc, l'idée d'aujourd'hui, on va parler à la fois de ces manifestations, de ce mouvement social, et puis aussi de l'impact éventuel, potentiel de ce mouvement sur, évidemment, sur la campagne et sur les élections en novembre 2024. Donc, peut-être pour revenir un peu sur ce mouvement, comme tu l'as dit, Harrison, en tant que bon alumni, en tant que bon diplômé de Columbia University, tu as rappelé l'importance, la centralité de Columbia dans tout ça. Et c'est vrai que ce mouvement a commencé à Columbia et qu'ensuite, le mouvement s'est répandu un peu, s'est répandu sur des campus d'autres universités un peu élites, on peut le dire, hein, aux États-Unis, que ce soit MIT à Boston, que ce soit Yale dans le Connecticut,
Brown,
etc. Donc c'est clair que ce mouvement a commencé sur des campus, on peut dire un peu élites, mais ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, on a vu d'autres mobilisations, d'autres occupations sur des universités qu'on ne pourrait pas du tout qualifier comme des universités élites, vraiment sur des universités publiques, ce qu'on appelle des state schools, des universités d'État, donc des universités publiques. Je pense à CUNY, à New York, le City University of New York, ou Arizona State, ou Ohio State, Texas. Ce ne sont pas des campus élites, des universités élites. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que c'est une des caractéristiques de ce mouvement. Et puis, comme tu disais, un peu le climax, c'était l'occupation de Hamilton Hall, qui est aussi à une importance symbolique, mais peut-être on reviendra à ça juste pour raconter un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a vu ce mouvement, comme tu disais, avec une répression féroce. Je pense qu'en tout, on a plus de 2600 arrestations qui ont touché plus de 50 campus aux États-Unis. Finalement, il y a eu 140 campus au moins touchés. Et à l'heure où on vous parle, on peut dire que ce mouvement touche un peu à sa fin à cause à la fois de cette répression, évidemment, mais aussi tout simplement parce qu'on arrive à la fin de l'année universitaire. C'est le moment de la remise des diplômes pour beaucoup d'étudiants. C'est aussi le moment où beaucoup d'étudiants rentrent chez eux ou vont ailleurs pour des boulots d'été.
C'est toujours ce moment de l'année qui tourne en boucle un peu sur Twitter ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Ces images, ces vidéos, des cérémonies des remises des diplômes qu'on n'a pas peut-être en France forcément de la même façon. C'est des énormes... D'énormes fêtes qui attirent plein de figures politiques. Chaque université, il y a toujours un peu une concurrence pour avoir un intervenant le plus connu. Et là, bon, moi, ce que je vois sur mon boucle Twitter ou Instagram, c'est à chaque cérémonie, c'est les mobilisations, les manifestations, les manifestants qui au moment d'aller serrer la main du président de l'université, va tenir des drapeaux aux Palestines ou porter des slogans contre la guerre. Donc oui, il y a une certaine fin de séquence,
mais juste parce
qu'avec la fin de l'année scolaire, mais c'est clair qu'il y a quelque chose il y a eu un déclic et ça va pas forcément, reculer tant que ça.
Ouais, même les cérémonies de remise de diplôme sont touchées par ce mouvement. Et puis, on va aussi, ça c'est aussi notre tradition dans les universités américaines, on va inviter des intervenants pour donner des discours. En fonction des intervenants, les étudiants vont protester ou pas. Et j'ai vu plusieurs vidéos d'étudiants qui se tournent le dos à l'intervenant ou qui quittent la cérémonie pour protester l'intervenant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce mouvement. Peut-être pour commencer, je pensais que ce serait intéressant de parler du profil de ces manifestants. En fait, c'est qui ces gens qui participent qui sont ces étudiants qui participent dans ce mouvement? L'autre jour, j'ai vu sur ma chaîne préférée en France, j'imagine la tienne aussi, c'est News, où il y avait un intervenant qui disait que c'était... des islamistes, en fait, qui ont réussi à infiltrer les universités. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que c'est à la fois, en tout cas, en parlant du contexte français, ils disaient que c'était les islamistes, mais aussi les wokistes américains. Et du coup, ce serait une sorte de mélange de wokistes.
Alliance du mal. Pour peut-être poursuivre ce dont on parlait la semaine dernière, c'est une génération... J'aborde en quelque sorte ce mot, une génération, mais c'est des gens qui ont été politisés le long des années qu'on a essayé un peu de creuser dans le premier épisode, à savoir des gens qui ont été très 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 mobilisés autour des questions de l'antiracisme aux États-Unis. On parle de peut-être d'une génération Black Lives Matter qui ont été très portés par des questions de justice raciale. Et évidemment, c'est pas difficile de faire un certain lien entre des formes d'injustice qui peuvent se passer aux États-Unis et des formes d'injustice raciale et coloniale qui se passent ailleurs dans le monde. Radicalité non plus, je pensais à un mot qui est un peu déplacé. Toute la presse américaine, la presse de droite et une grande partie aussi du presse dite libérale, centriste, aime à trouver des anecdotes qui peuvent justifier les accusations d'antisémitisme. Mais en grande partie, il y a vraiment rien de très radical dans les revendications de ces militants. Déjà, ils font référence à quoi ? Ils font référence au droit international, ils font référence aux décisions et aux jugements des tribunaux internationaux, au texte de l'ONU, d'organisation des droits de l'homme, très réputée, très établie, très respectée. Donc, c'est en quelque sorte le fruit d'une certaine politisation qui a eu lieu depuis une dizaine d'années. Et bon, je pense peut-être le parallèle, oui, on va parler évidemment de 68, mais dans le contexte immédiat aux États-Unis, la référence la plus claire, c'est l'été 2020. L'été, ouais, George Floyd, c'est ça je pense, le rappel le plus direct. Mais cette fois-ci, l'injustice ou la violence raciale, c'est moins aux États-Unis, c'est ailleurs. Et moi, contrairement... je trouve ça comme une suite assez naturelle au fond de politisation qu'il y a eu depuis plusieurs années.
Et je pense que tu as bien fait d'insister sur le côté antiraciste. C'est parce que ça, c'est un truc que parfois, peut-être, on a tendance à oublier ou juste négliger en France. Mais du point de vue américain, en tout cas du point de vue de beaucoup de ces étudiants qui se mobilisent, ils ont cette conscience politique antiraciste vraiment formée par le mouvement de Black Lives Matter. Et pour eux, la Palestine peut être vue aussi sous ce prisme-là, sous le prisme du colonialisme qui est très lié au racisme. Sans vouloir faire tout un épisode sur la création de l'État d'Israël et sur l'occupation de Palestine, il y a évidemment, je pense, de mon point de vue, évidemment, un contexte colonial lié à la création de l'État d'Israël. Et je pense que pour beaucoup d'étudiants américains qui sont politisés sur ces questions raciales, reconnaître l'oppression subie par les Palestiniens est une forme c'est un prolongement de cet engagement antiraciste. Donc ça c'est un premier point. Et et puis aussi, je pense c'est une génération en fait qui a vécu beaucoup de choses déjà. Enfin là, des étudiants qui sont en train de recevoir leur diplôme, donc en 2024. Donc, en 2020, ils étaient en train de recevoir leur diplôme de lycée, mais ils n'ont même pas pu assister à des cérémonies parce que c'était l'année Covid. Et puis avant ça, il y avait Donald Trump qui a été élu en 2016. Donc, juste si vous mettez pensez à la place, il faut se mettre à la place de ces étudiants qui ont vécu leurs années de lycée sous Donald Trump comme président, qui ont vu l'explosion de cette mobilisation de Black Lives Matter en 2020, et qui maintenant voient ce qui se passe en Palestine. Et donc, je pense que c'est un mot qui parfait un peu trop utilisé, franchement, mais ils sont un peu traumatisés, je pense, par le moment dans lequel ils ont grandi, mais vraiment.
Est-ce qu'on peut dire assagi?
Peut-être, ouais, on peut dire ça aussi, ouais. Ouais,
pour peut-être donner un tournant positif. Moi, ouais. J'ai été à Columbia entre 2012 et 2016. Et ce qui s'est passé fin avril, début mai, là-bas, cette année, je voyais ça venir en quelque sorte. J'en suis fier, je suis ravi d'avoir vu les étudiants des années suivantes, moi, faire ça. Mais la question de la Palestine a très longtemps, ou depuis une dizaine, une quinzaine d'années, a très 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 longtemps galvanisé les étudiants sur ce campus-là. Je pense que tu as très bien fait de remarquer que le mouvement social actuel ne concerne pas uniquement, contrairement peut-être à ce que Fox News aimerait croire, ou peut-être Le Figaro aimerait croire, ne concerne pas du tout uniquement des institutions d'élite du côté. C'est évidemment, oui, un mouvement très populaire, mais ça fait partie d'une certaine tradition sur le campus de Columbia, à
Bien
moi.
sûr, ouais.
Là, aujourd'hui, juste peut-être pour raconter une petite anecdote, j'étais à l'EHSS, par exemple, où ce soir, où on enregistre, il y a, je pense, une occupation, et j'en parlais avec quelques chercheurs dont... Et tout le monde disait, bah, c'est étonnant que déjà, il n'y a pas de département d'études moyen-oriental. Tous les cours qui traitent du Moyen-Orient, de la Palestine, font partie d'un département d'études turques ou balkaniques. Ça, c'est où sont apparentés les chercheurs qui bossent sur la Palestine, qui bossent sur
Ouais, c'est l'Empire ottoman, là, en fait, tout ça. Ouais.
Alors qu'aux États-Unis, et peut-être... au crédit de Columbia et d'autres universités américaines, la pensée décoloniale a heureusement fait des brèches dans les universités américaines, notamment à la Columbia, qui a été longtemps l'université d'Edward Said. Aujourd'hui, parmi les principaux chercheurs qui travaillent sur la Palestine aux États-Unis, ils sont pour une grande partie aussi à Columbia. Donc, heureusement et au crédit, contrairement peut-être à ce qu'aimerait croire le président actuel de l'université. Heureusement qu'il y a cette, peut-être est-ce que niche c'est pas le bon mot, mais il y a cette culture intellectuelle qui est très riche. Et ce qui s'est passé fin avril, c'est le ressort de cette tradition qui a développé depuis une vingtaine, une trentaine d'années.
Parce que moi je trouvais drôle, je sais pas ce que toi t'en penses en tant qu'ancien étudiant diplômé de Columbia. Mais ce que moi j'avais compris, c'est que Columbia aujourd'hui, l'administration, les mêmes personnes qui appellent les policiers, qui appellent aux forces de l'ordre d'intervenir sur le campus pour expulser les étudiants, cette même administration aime faire de la com un peu autour de l'image de Columbia en 68, que sur le site officiel, ils vont avoir des photos de Hamilton Hall, le même immeuble occupé par les étudiants en opposition à la guerre au Vietnam, en Vietnam, la guerre du Vietnam, pardon. Et du coup, ça fait partie de l'image, en fait, du brand, si je peux dire,
bah
de
ça
la
fait
marque de
partie, en
Columbia.
quelque sorte, c'est quoi le mot français, hein? Ça fait partie du roman national, peut-être, du roman de l'université, l'héritage de 68. Ces étudiants ont été du bon côté de l'histoire en s'opposant à la guerre au Vietnam, en s'opposant à la construction d'une gymnase ségrégée entre les habitants ou les résidents de Harlem, à côté du campus, et les étudiants... disproportionnellement blanc de l'université qui se situe juste à côté du Harlem. Donc oui, de 68, ça fait partie c'est l'histoire officielle maintenant de l'université. Une des interventions qui personnellement m'a touché beaucoup a été Rachid Halidi, qui est un des historiens principaux. Je pense qu'il est peut-être je pense qu'il n'est pas le directeur du département d'études Moyen-Oriental, mais c'est le Edward Said Chair, donc c'est l'héritier en quelque sorte, le successeur d'Edward Said. Et
lui aussi palestinien-américain.
Oui, et lui, il fait cette remarque que dans 40 ans, ces étudiants feraient partie aussi du mémoire, et on va tous oublier celles et ceux sur le Board of Trustees, qui est le bon, peut-être aussi, je pense qu'il faut aussi parler de l'institution de l'université américaine
le Board of Trustees,
qui n'a rien à voir.
C'est le conseil qui gère
c'est le conseil administratif, c'est pas le bon mot, c'est celles et ceux qui représentent qui gèrent le financement de l'université en quelque sorte, et qui sont un peu c'est le Politburo de l'université, qui représente les parties prenantes économiques derrière ceux qui sont en quelque sorte peut-être des institutions financières qui donnent aussi des diplômes et qui donnent aussi de la formation, mais qui sont d'abord et surtout des énormes fonds d'investissement qui ont énormément de pouvoir financier et économique avec, je pense, Columbia, je l'ai regardé tout à l'heure, on parle de quelque chose de 14 milliards de dollars de fonds. de valeur économique, alors que Harvard, peut-être, on est à 40 milliards de dollars. Donc, c'est pas pour rien aussi. Ça explique aussi une des revendications dont on entend moins en France. C'est une des revendications principales de ces mouvements. C'est justement de couper tout lien financier entre ces universités et l'Israël. Divestment, c'est le cœur du projet de boycott, sanctions.
C'est le mouvement de BDS est parfois vu comme une forme d'antisémitisme en Europe, mais bon, on en...
Et aux États-Unis.
Et même aux États-Unis, mais peut-être un peu moins. Mais ça, c'est une énorme différence avec la France. C'est le fait que les universités américaines, même s'ils ont un statut de not-for-profit, donc... pas vraiment d'équivalent en français, mais à une statue un peu associative, not-for-profit, ils sont de fait des énormes fonds d'investissement. Ils contrôlent des milliards de dollars. Vous prenez des grandes universités comme Columbia, Yale, Harvard, c'est des énormes fonds d'investissement. Et donc, c'est pour ça que quand les étudiants se mobilisent sur leur campus, ils vont souvent demander aux universités de ne plus investir ou de couper tout lien avec Israël. On n'est pas que sur la symbolique, en fait. Là, on est sur des choses très concrètes, très réelles. On est en train de parler de millions. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas combien d'argent, parce que souvent, il y a un vrai manque de transparence. Et ça fait partie aussi des demandes des étudiants d'avoir un peu plus de transparence sur comment investissent ces universités.
Je pense que ça revient aussi aux questions de l'université comme espace politique, c'est ça. Ça, en quelque sorte, peut-être on peut dire, ça c'est une des inventions des années 60. Heureusement que l'université est devenue, du fait de massification, de la démocratisation de l'enseignement supérieur, un espace de lutte politique principale, à gauche, peut-être encore plus aux États-Unis qu'en France, peut-être, juste du fait des raisons culturelles, des différences politiques, sociales entre les deux pays, je me demande.
Ah, je sais pas, parce qu'en France, il y a encore le même fantasme sur l'unité ouvrière étudiante de 68, donc il y a un peu le même...
Oui, ça fait partie, bien sûr, du mémoire collectif.
Imaginaire de la gauche.
Mais peut-être dans un États-Unis où, je sais pas, les autres points forts de la société civile, ou les autres leviers de pression étaient un peu... affaibli d'une façon peut-être encore plus forte qu'en France, affaibli. Les universités, peut-être plus que d'autres lieux aux États-Unis, ont gardé une certaine importance politique, juste de par leur poids relatif dans la société américaine, je dirais. Donc c'est ça aussi, je pense, qui explique en quelque sorte la réaction qu'on voit aujourd'hui. Cet hiver, peut-être pour donner un peu du qu'est-ce qui a précédé ? Je pense qu'il faut qu'on fait un petit retour sur ce qui a précédé aussi ces manifestations, ces occupations et ces mobilisations. C'est toute une série c'est une véritable campagne, on dirait, une offensive par la droite américaine contre les universités américaines. Cet hiver, en décembre, ce qu'on avait vu déjà, c'était les convocations des trois présidents de Harvard, MIT et University of Pennsylvania, au Congrès, à la Chambre des représentants en décembre, où les trois présidentes, je pense qu'elles étaient tous les femmes, je crois, étaient forcées à répondre à toute une série de questions, mais complètement tirées du mécartisme des années 50, sur une prétendue vague d'antisémitisme sur les campus. Ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est ces présidents de l'université ont complètement abandonné la bataille à la droite. Ils ont pas du tout confronté l'interrogatoire complètement absurde et ubuesque de la part des représentantes républicaines de l'extrême droite américaine sur leurs institutions. Sur Columbia, juste pour finir, sur Columbia, c'était le jour même de l'occupation de la pelouse principale où
la
présidente Minouche Shafik où Minouche Shafik a été interrogée, convoquée au Congrès, et c'est de ce moment-là, c'était clair qu'elle avait abandonné complètement la bataille à la campagne de droite et de l'extrême droite contre ces universités. Donc même avant que les flics ont été invités ou ont été convoqués pour venir arrêter et attaquer les occupations et les occupants. Elle avait complètement perdu, elle avait complètement cédé
Ouais.
la discussion à la droite.
Et quand tu dis bon, la campagne menée par la droite, là, en gros, tu fais référence à peut-être, j'essaie de résumer, tu me diras si j'ai tort, mais il y a deux choses un peu qu'on entend très souvent, enfin, qu'on a entendu sur ces mouvements. Tout d'abord, il y a l'accusation d'antisémitisme. Donc, les gens qui seraient en train de manifester seraient des antisémites, soit enfin, des antisémites explicites, ou ils seraient en train de le cacher en s'identifiant comme des antisionistes, qui serait une forme cachée de l'antisémitisme. Donc, voilà, ça c'est la première accusation, ils sont antisémites. Et puis, deuxièmement, il y a l'idée que les manifestants sont violents ou qu'ils ont des envies de violence. Voilà, ça c'est les deux accusations, et je pense que c'est important aussi d'un point de vue juste. Je pense que c'est important de rappeler les faits, que finalement il y a eu très peu, très 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 peu de violence. Ça c'est la première chose. Je pense qu'il y a eu une étude qui a été faite par une ONG sur la supposée sur la violence sur les campus. Ils ont regardé 553 mobilisations entre le 18 avril et le 3 mai. Ils ont trouvé finalement qu'il y avait moins de 20 maintes mobilisations où il y a eu des formes de violence. Ça, c'est le Armed Conflict Location and Event Data Project. Donc, très peu de violence. Et si vous regardez si vous lisez des récits de ces mouvements, il y en a un très bon article, je vous conseille de le lire, d'Abdourahmane Vaberi, qui est un auteur français et djiboutien qui enseigne à George Washington University à Washington, où lui il raconte ce qu'il a vu sur place, où finalement on est en train de parler d'une occupation, d'occupation très très pacifiste, avec on va jouer de la musique, on va faire des teach-ins, c'est-à-dire des cours proposés à ceux qui ont envie d'apprendre plus sur la Palestine. Donc finalement, ces mobilisations sont très pacifiques. Et puis parlons de la vraie question, Harrison, l'accusation la plus forte en fait qu'on entend très très souvent et même en France, enfin, voire plus en France même, cette accusation d'antisémitisme que on en discutera, mais pour moi, évidemment, je pense qu'on a vu des vidéos, je pense qu'aux marges de ces mobilisations, peut-être, ben, aux marges, il y a eu des formes. Il y a eu des chants antisémites, et quand je dis antisémites, je dis vraiment des chants antisémites. J'ai vu des gens un peu dingues qui viennent à soutenir des mouvements avec des pancartes qui sont un peu qui sont antisémites. Moi, je pense que ça doit exister aux marges du mouvement, et je pense qu'il ne faut pas le nier. Mais en même temps, réduire tout le mouvement à ça serait injuste, et c'est juste, et ce serait faux. Et je pense que, et je te laisserai la parole après, juste un point que je voulais aborder, parce que c'est très important de souligner, c'est l'importance des étudiants juifs dans ce mouvement. Ça, c'est très très important. Il y a beaucoup d'étudiants juifs eux-mêmes qui soutiennent ce mouvement et qui considèrent que la question de Palestine. Que la question de l'injustice en fait est au cœur de leur propre judéité, et pour eux en fait défendre la Palestine c'est une continuation de c'est une façon de faire vivre leur judaïté et d'exprimer leur identité finalement culturelle, religieuse. Ça c'est très 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 important. Est-ce que c'est la majorité de jeunes juifs aux États-Unis? Probablement pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est clair que dans ces mouvements, tu vas très vite voir qu'il y a beaucoup d'étudiants juifs qui font partie de ces mouvements. C'est quelque chose de très important qu'il faut souligner.
Et ça, c'est une des peut-être des éléments contextuels qu'on n'a pas abordé juste en présentant on a évoqué le mot génération en commençant de parler de ces mobilisations et de ces occupations. Mais un des développements extrêmement salutaires aux États-Unis et à gauche aux États-Unis, justement, notamment autour de la question de la Palestine, et le fait que depuis peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, Peut-être plus récemment que ça, en vrai, peut-être une dizaine d'années, il y a une véritable, au moins pour une partie de la jeunesse juive américaine, une énorme changement de regard et d'aperçu de la question du conflit Israélo-Palestine. C'est un phénomène qui juste. Peut-être, on peut peut-être parler des parallèles en France, mais juste qui, ou en Europe, mais qui, on ne le voit pas de la même façon. Peut-être ça commence ici, mais depuis une dizaine d'années, je cherche le mot sea change, c'est le mot que je cherche.
Un changement de
Un
paradigme.
changement de paradigme, oui, dans une certaine judéité américaine,
Ouais.
qui peut-être. On peut l'appeler antisioniste, post-sioniste,
Ouais, je pense que oui, clairement ici,
en tout cas
ouais,
très
il dirait qu'ils
très
sont
critique
antisionistes.
de colonisation des territoires palestiniens et très critique de l'État d'Israël ou voire aussi de sionisme tout court. Donc ça, c'est un véritable changement d'époque. On sait que ça effraie
Ouais.
des membres du lobby pro-Israël aux États-Unis.
Complètement, ouais.
Ça aussi, ça met en faux aussi toute la campagne contre le
Ouais.
mouvement pour la Palestine aussi, que on a peut-être les figures d'une certaine establishment américain pour le statu quo de la politique étrangère américaine dans ce conflit qui est très, 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 très indulgent vis-à-vis d'Israël depuis cinquantaine, soixantaine d'années, voire depuis la fondation de l'État d'Israël. Et bon, Joe Biden en a une. Il s'avoue une défenseur féroce et totale de l'État d'Israël et cette jeunesse vive aux États-Unis. Il y a la rupture et les décalages est total, on dirait.
C'est une question très intéressante pour moi. Pourquoi on ne voit pas émerger cette même génération juive antisioniste en France comme on voit aux États-Unis? C'est une question que moi je me suis posée plusieurs fois depuis les événements des attentats du 7 octobre. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de ce sujet. Mais parce que moi j'ai posé la question à des militants d'un groupe qui ressemble un peu à ce qu'on voit aux États-Unis. On a des groupes aux US qui s'appellent If Not Now, ça s'appelle Jewish Voices for Peace. On a un groupe en France qui s'est créé récemment qui s'appelle Tzedek, un collectif juif décolonial. Et j'ai parlé avec un militant de Tzedek et c'est un groupe qui reste assez minoritaire, eux-mêmes ils le diraient. Et moi, je demandais à ce militant, mais pourquoi, à ton avis, y a pas le même, on voit pas ce même phénomène en France? Et je pense que tout d'abord, ça c'est un, parce que bon, quand même, les États-Unis c'est le plus grand pays ou deuxième pays juif du monde, et puis ensuite la France est en troisième position. Donc, les deux pays ont des populations juives importantes. Et lui, il me disait que contrairement aux États-Unis, pour beaucoup de juifs en France, ils ont des liens. Très direct ou rapidement, ils vont avoir des liens dans leur famille avec Israël. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de juifs aux États-Unis. Pas pour tout le monde, en tout cas. Moi, par exemple, quand je pense à la famille de mon père, parce que mon père est juif, en fait, on avait très peu de liens avec Israël. Enfin, moi, je connaissais personne, en tout cas, dans notre famille, il n'y avait personne qui allait habiter en Israël. Parce que c'est. Des juifs ashkénazes qui sont émigrés aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale ou juste au moment de la Seconde Guerre mondiale pour d'autres. Et donc, ces gens-là ont rapidement ont été intégrés dans la société américaine et beaucoup sont restés aux États-Unis. Ce qui est très différent de l'expérience de beaucoup de juifs en France, évidemment vu la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'expérience postcoloniale. Où il y a eu des immigrés, pour la plupart venant de l'Afrique du Nord, ou des juifs séfarades, qui eux gardent des liens plus forts avec Israël. Il y a beaucoup de franco-israéliens. Et donc, pour eux, Israël est juste plus proche géographiquement, mais en termes de humainement, enfin, ils connaissent plus de gens qui sont là-bas. Ça, c'est une différence importante aussi.
Peut-être juste si on s'approche un peu à la fin, à la conclusion.
Oui.
À la fois, ça fait plaisir de voir les Américains, les Américaines se renouer avec ou redécouvrir en quelque sorte leur propre histoire de 68. Toute cette séquence, ces dernières semaines, ont invité à des séries d'articles, des tas de reportages, des tas d'articles de souvenirs et des prises de position qui fait le parallèle entre 68 et ce qu'on voit aujourd'hui. C'est aussi peut-être une parallèle un peu qui devrait nous concerner aussi. 68, oui, à la fois, c'était aux États-Unis une énorme mobilisation, des énormes mobilisations contre la guerre au Vietnam, la poursuite aussi du mouvement pour la libération des Noirs aux États-Unis, mais c'était aussi, en quelque sorte, on pourrait dire que la première grande victoire du mouvement conservateur moderne aux États-Unis, c'était 68 aussi. Et c'est un parallèle qui devrait peut-être aussi faire plaisir à Donald Trump.
Parce que 68, c'est l'élection de
Richard Nixon, pardon. Richard Nixon, donc 68, qu'est-ce qui s'est passé en 68? On a des séries de mobilisations, de manifestations étudiantes, et puis on a Lyndon Johnson qui cède le leadership du Parti démocrate. On a une convention démocrate au Chicago, l'été 68, qui tourne au fiasco. Il y a des flics qui attaque des étudiants.
On a appelé ça une émeute policière.
Voilà, oui, appelons-le ça. C'est ça le mot.
Bah, on dit que c'était une émeute policière, ouais, parce que les policiers ont perdu contrôle et ils ont commencé à frapper, à tabasser des gens un peu partout.
Ouais, ouais. Et bref, ça fait fiasco. Le Parti démocrate est porteur d'une crise et dans le bourbier du Vietnam et n'arrive pas à s'en sortir. Et qu'est-ce qui se passe en novembre 68? On a Richard Nixon sur une plateforme de law and order, de l'ordre républicain, peut-être on pourrait dire, qui gagne la Maison-Blanche. Donc, la façon dont la politique américaine va métaboliser ce qui se passe, on ne sait pas du tout. Ce qui est assez clair, c'est que la coalition de Biden, comme on l'a dit à la première épisode, ce printemps est révélateur, encore une fois, de la rupture totale entre le libéralisme d'élite, comme on peut dire, le progressisme d'élite ou l'establishment du Parti démocrate et les mouvements sociaux qui sont nés depuis 5-10 ans et qui sont aussi, eux, vraiment le cœur de ces mobilisations.
La seule question vraiment qui... Une des questions clés. Est-ce que tout ça va avoir un impact sur Biden en novembre? On a posé la question la dernière fois qu'on s'est vu, enfin, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, parce que c'est ça une des grandes questions. Parce qu'on parle beaucoup de ce mouvement, mais quel sera le vrai impact de ce mouvement sur la campagne de Joe Biden? Et ben, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un nouveau sondage qui est sorti, qui est assez catastrophique pour le président actuel, qui montre qu'il est en train de perdre des voix de sa base électorale. On voit que dans un certain nombre d'États clés, Trump est en train de gagner. Et donc, je pense qu'en général, pour les Américains, je vais caricaturer un peu, les Américains en général s'en foutent un peu de la politique étrangère, si je peux dire ça. Donc quand vous demandez aux gens, quand vous allez demander aux gens quels sont les sujets les plus importants pour vous, ils vont rarement vous parler d'un conflit international. Ça va être plutôt, j'allais dire le chômage, mais aux États-Unis, c'est pas comme en France. Le pouvoir d'achat, l'inflation, voire l'immigration. Maintenant, l'avortement, c'est un sujet clé. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, il faut toujours faire attention à ne pas trop analyser les sondages, mais quand vous regardez les sondages, il y a quand même une petite partie de cette base qui se dit très préoccupée, voire frustrée par la manière dont Biden traite, la manière dont Biden mène cette politique vis-à-vis d'Israël. Selon ce sondage, 13% des électeurs de Biden en 2020 disent qu'ils ne vont pas le refaire, qu'ils ne vont pas revoter pour Biden en 2024. Et ils citent, pour eux, le sujet le plus important, c'est la guerre à Gaza. Et dont la majorité soutient la cause palestinienne. Donc il y a une petite partie de cette base démocrate qui est très très en colère contre Biden, et il suffit que ces électeurs-là ne se rendent pas aux urnes pour que Biden perde l'élection. Ce sujet motive peut-être pas tous les jeunes, peut-être pas tous les gens qui s'identifient comme progressistes, mais une certaines parties de ces électeurs-là sont très, très préoccupées et ça risque de faire basculer l'élection. Donc, pour résumer, oui, évidemment, tous les électeurs démocrates ne sont pas révoltés par ce qui se passe à Gaza, mais quand même, il y a une petite partie de ces électeurs-là qui sont de plus en plus frustrés. Et aujourd'hui, aux États-Unis, pour gagner des élections présidentielles, il faut absolument savoir mobiliser sa base. Et Biden, on dirait, a du mal à mobiliser toute sa base. Donc, si j'étais un démocrate, si j'étais dans la campagne de Biden, je serais très inquiet.
Bah, j'ai envie de dire, peut-être quand je formulais ou j'essayais de formuler ma réponse, je voulais commencer en disant, peut-être est-ce que Biden souffre de ne pas avoir tenu une ligne claire. Et je pense, je passe, même cette formulation-là n'a vraiment pas de bon sens. Parce qu'en fait, oui, il a tenu une ligne claire depuis octobre. Et la ligne claire a été, en quelque sorte, carte blanche à ce que veut mener Netanyahu. Oui, il y a eu des déclarations, un peu de routine. On a eu, au commencement de la campagne actuelle, ou l'invasion actuelle du Rafah, la menace de ne pas fournir certains types de bombes qui pourraient être utilisées sur la ville. Mais en vrai, depuis octobre, Biden a tenu une ligne très claire, qui est celle de la politique étrangère américaine depuis des décennies, sur le soutien à l'effort de guerre israélienne.
Ouais.
C'est cette ligne claire qui ne tient plus, en fait. C'est cette ligne claire qui ne tient plus, et c'est cette ligne claire qui fait en sorte que les télés américains, les médias américains vont tourner en boucle pendant des semaines des images des jeunes qui se font tabasser par des flics. Et je pense juste quand tu es président d'un pays, quand tu brigues un mandat présidentiel, ça même s'il y a des gens qui s'opposent à droite, qui s'opposent à ces revendications étudiantes, juste l'image du désordre dans les universités, du désordre dans les villes, en quelque sorte, ça donne, c'est un cadeau à l'opposition. Biden a créé les conditions du chaos entre guillemets actuel de ce printemps.
Et donc il faudrait un Trump pour revenir remettre les choses dans l'ordre et mettre fin à tout ça.
Bah ça c'est ce que Trump il essaie de véhiculer, ça c'est clair. Parce qu'à la fois oui ce shift, ce 13%, à la fois oui c'est je suis d'accord, c'est ce 13% c'est ça peut être très conséquent dans les états clés et ça peut faire basculer, mais à la fois c'est aussi révélateur du fait que ce n'est pas la raison principale que les électeurs démocrates ou les électeurs qui ont voté pour Biden ne vont pas voter pour lui ou ne pourraient peut-être pas voter pour lui en novembre, n'est-ce pas?
Non, mais ces 13% pour eux, parmi ces 13%, ils considèrent que le sujet le plus important pour eux, c'est justement Gaza.
Voilà, oui. Mais justement, donc ça montre que pour 87% des électeurs qui n'ont pas voté pour Biden, ce n'est pas malheureusement. Et, je sais pas,
on est d'accord.
Je préfère voir que 100% ne vont pas voter pour lui par principe du soutien à un génocide. Mais
non, on est d'accord,
juste comme tu as dit, ce n'est pas le cas. Les Américains, comme tu disais, s'en foutent en grande partie, malheureusement, de la politique étrangère. Comme on dit, la politique s'arrête à l'océan. Ça, c'est un des vieux clichés de la politique américaine. Ce dont Biden souffre, c'est le sentiment de désordre ambiant. C'est ça, je dirais. Plutôt la menace pour lui, c'est ça.
On peut dire que c'est les deux, peut-être en même temps. Enfin,
bien sûr, c'est
là,
les deux.
J'étais en train de parler d'une chose et toi, tu peux
l'ajouter. Oui, bien sûr, il souffre d'avoir perdu la base habituelle du Parti démocrate, à savoir des personnes de couleur, des jeunes. Il souffre d'avoir insulté cette base, en quelque sorte, par cette guerre. Mais je dirais, il souffre aussi de ce que sa position rend possible ou rend presque inévitable, à savoir des révoltes d'étudiants et des militants.
Moi, je voulais juste peut-être ajouter un dernier mot pour conclure. Parce qu'on pense, tu faisais le parallèle avec les années 60. Et ben figure-toi que parfois, il se trouve que les Américains ont tort quand vous posez des questions dans des sondages aux Américains. Parce qu'on parlait un peu de la marque des mobilisations des années 60 dans la, à Columbia. Et puis aujourd'hui, on a plutôt une image positive de ces mouvements pour les droits civiques dans les années 60 aussi, avec Martin Luther King, la lutte pour l'égalité, la justice raciale. Et donc moi, j'ai retrouvé des sondages dans les années 60 sur ce que pensaient les Américains sur tous ces mouvements de protestation qui aussi étaient considérés comme des sources de désordre qui risquaient d'être polarisants pour des gens. Et donc ça, j'ai trouvé dans les années 60, donc juste avant la marche sur Washington en 1963, un sondage de Gallup qui disait que seulement 23% des Américains avaient une image positive de la marche sur Washington. La plupart pensaient que des démonstrations de masse, entre guillemets, des manifestations de masse menées par des Afro-Américains allaient avoir un impact négatif sur la cause de la justice raciale. Donc une majorité s'était opposée. Et puis il y a plein de sondages comme ça dans les débuts des années 60 qui montrent que les Américains pensaient que des mouvements pour les droits civiques, que ce mouvement était trop radical, conflictuel, trop radical, trop de désordre. Et donc finalement aujourd'hui, comme tu disais, c'est le souhait de Rachid Khalidi, de dire que peut-être un jour, même si aujourd'hui ce mouvement est très critiqué et peut-être n'a pas le soutien de la majorité des Américains, peut-être qu'un jour, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, qu'on va revoir cette période en se disant que finalement, en fait, les étudiants, ils avaient raison. Parce qu'ils nous rappelaient que en fait, il fallait changer de ligne politique sur Israël et que finalement, ils étaient, ils avaient raison et qu'ils avaient raison de se révolter.
Pas très bien dit, Cole. Est-ce qu'on s'arrête là?
Je pense qu'on peut s'arrêter.
Ouais. Merci d'avoir écouté. On va essayer maintenant de tenir ces épisodes en dessous d'une heure. Et merci à celles et ceux qui ont écouté jusqu'à...
Merci.
Presque une heure et demie du premier épisode. Mais là, on va se discipliner. Et on va créer pour vous des sortes de des petites interventions sur les États-Unis. Voilà.
Allez.
Merci, Cole, d'être monté à Paris.
Ouais, merci à toi, et tu vas descendre, comme on dit, à Marseille bientôt, j'espère.
Oui, l'été, ça, non ? C'est la saison.
Ouais. Et à la prochaine.
Oui, à la prochaine. Bonne soirée.
Bonne soirée.